Bonjour et bienvenue sur Mediapart. Nous avons le plaisir de recevoir Nabil Wakim, journaliste au Monde qui vient de publier un ouvrage baptisé « L'arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France » qui est publié aux éditions du Seuil. C'est un récit intime et une réflexion politique sur notre rapport à la deuxième langue la plus parlée dans notre pays. Nabil Wakim, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi aujourd'hui l'arabe fait peur en France en 2020 ?
Alors, et pour d'abord une raison qui paraît évidente, qui est que l'arabe est associé dans l'esprit de beaucoup, et notamment beaucoup de responsables politiques, est associé à l'islam, et toutes les caricatures qui sont malheureusement adossées à la vision qu'on a de l'islam politique, et donc par extension du fondamentalisme, du terrorisme, etc., sont aussi adossés à la langue arabe. On l'a vu ces dernières semaines, le débat sur l'enseignement de la langue arabe est revenu, et on a revu poindre l'idée qu'enseigner l'arabe, ça voulait dire enseigner l'islam, et donc que les élèves qui apprendraient l'arabe seraient en fait des élèves potentiellement demain des futurs terroristes. Et donc on voit bien qu'il y a cet amalgame-là, mais il n'est pas récent, il est assez ancien dans l'histoire de France, et il est évidemment lié à la colonisation du Maghreb et à la présence française au Liban et en Syrie, où il y a toujours eu un peu cette idée, pas toujours, mais en tout cas ces 50-60 dernières années, l'idée que l'arabe était la langue de l'ennemi. Et donc c'est une langue qui est rappeuse, qui est bizarre, qui dit probablement des choses qu'il ne faut pas dire, et qui est donc une langue de combattant, une langue de religieux. Évidemment, tout ça, c'est des caricatures qui sont fausses et qui sont invalidées dans la vraie vie des gens qui parlent l'arabe, mais qui restent très vivaces dans l'esprit de beaucoup de gens.
Mais justement, on l'a vu ces dernières semaines, Emmanuel Macron parle de l'enseignement de l'arabe dans un discours sur le séparatisme. On a un député LR qui s'appelle Aurélien Pradier qui dit « Institutionnaliser à l'école l'apprentissage de la langue arabe est une lâcheté et une faute ». On voit que même en termes d'apprentissage, la langue arabe n'est pas traitée comme les autres langues. Pourquoi est-ce que finalement, on n'arrive pas à lui donner un statut ordinaire ?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que l'enseignement des langues vivantes dans l'ensemble du système scolaire français n'est pas très bon. Non. Mis à part l'anglais, toutes les langues vivantes sont en difficulté. À cela s'ajoute pour l'arabe le fait que c'est une langue qui est en fait de moins en moins enseignée dans le secondaire, c'est-à-dire qu'il y a moins d'enseignants et moins de classes aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans, à cause de cette mauvaise image qu'a l'arabe, à cause d'une forme de blocage aussi au sein de l'éducation nationale, alors qui passe parfois par des enseignants, par des directeurs d'établissement, par des chefs d'établissement, par un certain nombre de ministres de l'éducation nationale, c'est-à-dire à tous les niveaux, il n'y a pas vraiment de volonté d'enseigner l'arabe comme une langue vivante et de lui donner une place dans le système scolaire.
Oui, parce que finalement, on voit qu'il y a très peu d'enseignants en arabe. On est dans un paradoxe. La moindre volonté de réforme de la langue arabe crée une immense polémique. Mais en même temps, on voit bien que ça reste un enseignement en déliquescence avec les ELCO qui faisaient venir des enseignants de pays étrangers. On voit que donc d'un côté, c'est complètement en déliquescence, mais de l'autre, ça crée des polémiques inouïes.
Le meilleur exemple de ça, c'est ce qui s'est passé en 2016 quand Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, dit « on va réformer l'enseignement de l'arabe donc en primaire », donc ces fameux enseignements de langue et de culture d'origine, qui sont une survivance post-coloniale, en disant « voilà, on va essayer de faire ça d'une manière un peu plus rationnelle ». Et tout de suite, l'accusation, c'est, comme je le disais, d'enseigner non pas l'arabe mais l'islam, mais aussi, en même temps, de vouloir rendre cet enseignement obligatoire. Et ce fantasme-là, il a été relayé par de très nombreux responsables politiques, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, donc pas simplement des gens d'extrême droite, par la presse conservatrice de manière très forte, avec cette idée que enseigner un tout petit peu plus l'arabe, aujourd'hui dans le secondaire, c'est 0,3% des élèves, donc on est assez loin
du grand remplacement
ou de l'obligation généralisée. Ouais. Donc il y a un fantasme complet sur l'idée que ça deviendrait obligatoire. En travaillant sur le livre, en discutant avec Najat Vallaud-Belkacem, elle m'a montré les mails qu'elle recevait à l'époque par centaines au moment où elle était ministre de l'Éducation nationale, de gens qui pensaient sincèrement qu'on allait remplacer l'enseignement non seulement des langues vivantes, mais aussi y compris du français, qu'on allait enseigner l'arabe
à
la place.
On l'accuse d'être le cheval de Troie, ou chameau de Troie, si on veut grand remplacer jusqu'au bout, de l'islamisme.
Oui, alors qu'en plus, Najat Vallaud-Belkacem elle-même ne parle pas l'arabe, donc évidemment, on lui fait ce procès parce que c'est une femme d'origine marocaine. Mais on voit bien que sur la langue se cristallise aussi cette vision caricaturale et xénophobe qui peut exister dans une partie de la société française sur l'idée que, en fait, voilà, arabe égale islam, islam égale terrorisme, et que donc, quelque part, il y aurait toujours aussi une forme de duplicité. C'est-à-dire, on ne peut pas faire confiance à ces gens qui veulent qu'on enseigne l'arabe parce qu'ils auraient, au fond, un agenda caché. Et c'est ce que dit Aurélien Pradier quand il critique l'enseignement de l'arabe. C'est-à-dire, quand il dit c'est une lâcheté, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ça serait pour séduire un électorat, une communauté. Cette communauté serait une communauté arabe fantasmée ou musulmane qui, évidemment, derrière, voterait pour Emmanuel Macron parce qu'on échange, on leur aurait donné l'enseignement de l'arabe. C'est absolument grotesque, c'est n'importe quoi. Mais, par contre, électoralement, c'est plutôt assez profitable. C'est-à-dire, ce qu'ont montré les 10 dernières années de polémique sur l'enseignement de l'arabe, c'est que c'est beaucoup plus simple politiquement de taper sur l'enseignement de l'arabe et de dire que c'est dangereux plutôt que de le défendre, où là, les gens qui le font se retrouvent très souvent tout seuls.
Oui, et puis il y a aussi cette idée de l'intégration. C'est ce que vous explique la députée Annie Genevard de manière très, très claire, en vous disant, moi, mes ancêtres sont italiens, on a abandonné à Rome, on fait comme les Romains. Donc il y a aussi cette idée d'assimilation forcée par la langue.
Oui, absolument. Et ça, quelque part, c'est une question de vision politique et de vision de ce que c'est l'identité française, finalement. C'est-à-dire de dire, bah, si ce qui unifie la nation française, ce qui fait qu'on est français, c'est qu'on doit tous parler français, et uniquement le français, c'est-à-dire, c'est pas simplement il faut bien parler français, mais il faut parler uniquement le français, bah, là, on est dans une vision qui est assez caricaturale, très conservatrice de ce qu'est la nation française, ce qu'elle n'a jamais été, d'ailleurs, puisque la France a toujours été le produit de différentes cultures, de différentes langues. Et donc Annie Genevard, qui est députée LR et qui s'était opposée très fermement à Najat Vallaud-Belkacem en 2016. Elle, son expression favorite, à Rome, fait comme les Romains. Elle fait Florès. Moi, je la vois réutilisée très, très souvent dans les critiques que je peux recevoir depuis la publication du livre. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire « à Rome fait comme les Romains » C'est-à-dire, on est où? On n'est pas dans la Rome antique. On est dans la France du XXIe siècle et dans laquelle on peut espérer qu'on a quand même appris un certain nombre de choses. Et dernier point quand même sur la comparaison avec le monde antique est un monde extrêmement plurilingue et c'est un monde extrêmement divers culturellement. Donc si on veut s'en référer à ça, peut-être que justement il faut avoir des inspirations qui sont un peu différentes.
Ouais. On va remonter un peu le fil. Donc vous êtes né au Liban en 1981. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 4 ans et vous parliez arabe. Il y a 4 millions d'arabophones en France, mais vous, vous n'en faites pas partie. Vous êtes, je cite, analphabète dans votre langue maternelle, comme vous le dites, même si après, vous découvrez que la langue maternelle n'existe pas au stricto sensu. Vous convoquez même les neurosciences pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Et la raison de votre blocage et de votre incapacité à parler arabe. Vous rencontrez aussi l'ex-ministre Myriam El Khomri qui dit que pour elle, rien ne sort, qui a un peu un parcours linguistique analogue au vôtre. Donc la question, c'est comment peut-on perdre sa langue maternelle? Est-ce que vous avez résolu un peu le mystère?
Évidemment, j'ai résolu aucun mystère dans ce livre. Voilà. Mais c'est vrai que moi, l'arabe est ma langue maternelle et on m'a parlé l'arabe jusqu'à mes 4 ans. J'ai continué à l'entendre ensuite dans ma vie, mais quelque part entre mes 4 ans et mes presque 40 ans, j'ai perdu finalement une grosse partie de cette langue. Et effectivement, dans ce livre, pour ce livre, je suis allé voir un certain nombre de linguistes avec l'espoir un peu mal placé de dire bon, bah, peut-être que quelque part dans mon cerveau, il y a un disque dur où est stockée toute ma langue arabe et puis que c'est une forme de paralysie sociale. Et puis voilà, il faut trouver la bonne formule magique pour que ça sorte. Il est évident que ce n'est pas le cas. Les linguistes disent deux choses. La première, c'est que d'abord, une langue, c'est comme tout, ça se travaille. Donc, on peut perdre sa langue première ou sa langue maternelle. On peut la reconquérir, la reperdre. Voilà, sans pratique de la langue, c'est difficile de la conserver. Et puis, la deuxième chose qu'expliquent bien les linguistes, c'est que, d'une certaine manière, la linguistique, c'est d'abord une science sociale et que les langues valent ce que valent les gens qui les parlent socialement. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est très important, c'est que comme la langue arabe est perçue en France comme une langue, malgré tout, essentiellement une langue d'immigrés, une langue de pauvres, une langue de gens qui ne réussissent pas, un certain nombre de gens, et je pense que c'est mon cas, qui ont essayé, qui ont été mis sur des chemins de réussite scolaire ou professionnelle.
Très académique.
Voilà, très académique, très classique. Et ben, finalement, consciemment ou inconsciemment, ont préféré laisser de côté la langue arabe en se disant que c'était pas un atout. Et d'ailleurs, ça, on le voit aussi dans les choix scolaires que font les parents. Si y a des blocages qui sont certains du côté de l'éducation nationale, on l'a dit, il y a aussi un certain nombre de blocages dans la tête de nombreux parents immigrés qui se disent, bon, vu la manière dont l'arabe est perçu, est-ce que c'est bien malin de mettre mon fils, ma fille dans des cours d'arabe où ça ne risque pas de valoriser leur parcours scolaire ?
Oui, parce que justement, vous le racontez, vous découvrez avec un peu d'étonnement que les familles arabophones ne transmettent pas la langue arabe. Ça, c'est l'étude Trajectoire et Origine qui essaye un peu de quantifier cela et qui explique que finalement, les familles arabophones ne transmettent pas la langue à leurs enfants. Vous rencontrez la sociologue Kavtar Archi qui raconte que son père préfère qu'elle aille au cours de rattrapage de mathématiques le samedi matin plutôt qu'au cours d'arabe. Et alors que ça aurait pu lui ouvrir des portes dans l'obtention de bourses, de choses comme ça, vous aussi, ça aurait pu vous faciliter la vie, vous pourriez faire des reportages en arabe ou en territoire arabophone. Mais pourquoi est-ce que, à ce point, il y a cette forme de rejet intériorisé et pourquoi est-ce que c'est pas perçu comme un atout ? C'est un bilinguisme honteux, finalement, l'arabe.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi bien les linguistes. C'est-à-dire que les linguistes, c'est que le bilinguisme en France, c'est entendu comme on parle français et anglais ou français et espagnol. Mais c'est rarement entendu comme français et une langue d'immigration, parce qu'on pourrait l'étendre non seulement à l'arabe, mais aussi à d'autres langues d'immigration, le wolof, le bambara, et y compris aux langues des Outre-mer, les créoles des Antilles et de la Réunion, par exemple. C'est des langues qui ne sont pas valorisées, qui sont mal perçues socialement, et donc les familles intériorisent cette vision-là. Et ce qui est assez curieux avec l'arabe, et ça je pense que c'est une spécificité, c'est qu'en France, il y a une très forte tradition d'apprentissage de l'arabe, ce qu'on appelle l'école arabisante. Depuis François Ier, il y a des cours d'arabe d'élite, il y a des traducteurs, des chercheurs, des diplomates qui parlent un arabe extrêmement raffiné, qui sont très pointus dans leur usage de la langue arabe, et qui sont français, qui ne viennent pas, eux, du monde arabe, qui ne sont pas des enfants d'immigrés. Et chez eux, cet apprentissage de l'arabe, il est valorisé. Ce que raconte Kavtar Archi, c'est que quand elle a enseigné à Sciences Po, elle avait des élèves qui s'appelaient Maud ou Paul ou Vincent, qui n'avaient aucun lien avec le monde arabe et qui étaient ravis d'être inscrits à des cours d'arabe et qui partaient plutôt de son cours pour aller faire des cours d'arabe. Et là, elle s'est dit, tout comme moi à un moment de ma vie, elle s'est dit « Ah zut, j'ai raté un truc ». Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire l'arabe enseigné pour des Français d'origine maghrébine ou d'origine du Proche-Orient, eh ben là, c'est perçu comme une forme de communautarisme, de volonté de retour aux sources bizarres, d'isolement, en fait.
Et de passeport religieux aussi.
Et évidemment, de passeport religieux. Alors que quand c'est pas le cas, quand on n'a aucun lien avec le monde arabe, eh ben là, c'est perçu comme une clé de plus dans l'ouverture
et
vers le monde et la compréhension de la société.
Le futur diplomate arabe, quoi, en poste en arabe dans un pays arabophone. Mais justement, vous parlez beaucoup d'héritage et vous percevez aussi que finalement, vous, l'interrogation originelle, elle vient de votre fille. Vous vous interrogez sur ce que vous allez lui transmettre et vous expliquez aussi que vous avez, au vu de tous vos entretiens, vous remarquez que ça saute une génération et que c'est finalement les enfants d'immigrés qui se retrouvent plongés dans ces questionnements. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Oui, alors c'est assez... Il y a une forme d'effet effectivement générationnel, c'est-à-dire moi je suis certes pas né en France, mais je suis arrivé très jeune. Avant, on disait qu'on était des enfants issus de l'immigration. Maintenant, on peut dire qu'on est des parents issus de l'immigration, parce que les gens de ma génération, souvent, ils ont des enfants et ils se posent la question de dire « Mais qu'est-ce que je vais transmettre de ma part de culture arabe ?» Moi qui suis totalement français et qui a envie d'être totalement arabe, qu'est-ce que je peux transmettre de ça à ma fille alors qu'elle vit dans un environnement dans lequel on ne parle pas l'arabe, dans lequel on lui parle en français, etc. Et c'est vrai que ça a été chez moi un moteur très fort de me poser ces questions-là. Et je sais très bien que ma fille ne va pas se mettre demain à parler l'arabe. Par contre, j'ai envie qu'elle sache et qu'elle comprenne que ça fait partie de son patrimoine culturel. Je n'ai pas envie de le gommer, de l'effacer comme ça a été fait. Et là, on peut faire la comparaison avec les langues régionales sous la Troisième République, dans des familles bretonnes, dans des familles alsaciennes, dans des familles occitanes, où on a gommé volontairement cet héritage linguistique et culturel en disant maintenant on n'est que français et donc il faut oublier tout ça. On parlait tout à l'heure de la députée LR Annie Genevard. Ouais. c'est assez amusant. Elle est effectivement, elle, d'une famille italienne, et elle dit, ben moi, voilà, nous, on a 1000 Italiens de côté, on trouve ça très sympa d'aller en Italie, mais on ne parle pas l'italien. Par contre, sa fille, qui a une trentaine d'années, ben elle, aujourd'hui, elle a très envie d'apprendre l'italien, et peut-être qu'elle aura envie d'apprendre l'italien à ses enfants. Et donc, on voit qu'il y a aussi des phénomènes où parfois on saute des générations dans la transmission de la langue et dans l'envie de la redécouvrir.
On voit très bien c'est tous ces paradoxes. Et il y a un autre paradoxe, c'est il y a un double standard dans l'arabe. Vous expliquez qu'il y a une hiérarchie au sein même de la langue. Vous racontez voilà que l'arabe de la rue, l'arabe dialectal, voilà, ça ne compte pas finalement. C'est pas un arabe noble. En revanche, l'arabe reconnu, ben ça, ça devient intéressant. Vous citez l'exemple de votre propre père qui lit parfaitement l'arabe, qui l'écrit et qui s'est mis à lire Naguib Mahfouz, donc l'écrivain égyptien, lorsqu'il a été lauréat du prix Nobel de littérature. Donc là, ça lui donnait un intérêt soudain. Pourquoi est-ce que, voilà, y compris pour un arabophone natif, il y a toujours toutes ces complications et ce statut très particulier de la langue arabe?
C'est vrai que la langue arabe a aussi une autre spécificité qui, là, pour le coup, n'a pas grand-chose à voir avec les questions purement d'immigration en France. C'est qu'il y a un arabe littéraire qui n'est la langue maternelle de personne. Personne ne parle l'arabe littéraire. Mais c'est pourtant celui-là qu'on retrouve dans une partie des médias, dans la littérature, et qui a un statut très noble.
Et dans les séries aussi télévisées, absolument, qui sont diffusées abondamment du Maghreb au monde arabe.
Et il y a l'idée que c'est cet arabe qui, d'une certaine manière, cette langue arabe, qui donne une forme d'unité aussi au monde arabe, dans des réalités qui sont très différentes.
Le fantasme du Maroc de Nasser.
Voilà. C'est ça, exactement. Mais la réalité, c'est que l'immense majorité des locuteurs arabophones dans le monde arabe, ils parlent la langue marocaine, la langue libanaise, qui sont issues de cette même matrice, qui ont des ressemblances, mais qui ont aussi des grosses différences, parce que ces langues-là aussi, elles sont alimentées de kabyles, de berbères, de langues africaines au Tchad,
de français, d'anglais, par exemple,
de persans en Irak, etc. Et donc, il y a une vraie difficulté dans l'unité de cette langue-là. Et donc, au sein même de la langue arabe, effectivement, il y a une forme de hiérarchie, et il y a un certain nombre de pays arabes, c'est notamment le cas au Maroc, où il y a des débats sur qu'est-ce qu'il faut parler, quelle langue il faut parler. Est-ce qu'il faut parler vraiment l'arabe littéraire, puisque c'est difficile de le parler et de l'apprendre, ou la langue de tous les jours, qui est la langue du commerce et de la rue. Et ça, c'est vrai que c'est un débat qui n'est pas simple. Il a d'ailleurs eu lieu en France dans les années 2000 sur quel arabe on enseigne. Ouais. Il y avait un certain nombre d'enseignants d'arabe qui disaient « Mais pourquoi on se casse la tête à enseigner un arabe littéraire qui est extrêmement lointain de ce qu'entendent tout un certain nombre de jeunes issus de l'immigration dans leur foyer ? Peut-être qu'il faut enseigner un arabe maghrébin, qui soit une sorte d'arabe de darija moyen, de marocain, algérien, qui puisse être compris et plus proche. Et puis finalement, ceux qui l'ont emporté sous l'égide de Jack Lang, c'était de dire, bah non, il faut enseigner l'arabe comme une langue vivante, donc à destination des enfants d'immigrés, mais aussi à destination d'autres gens qui n'ont pas de rapport avec le monde arabe et qui voudraient s'y inscrire et apprendre une langue vivante. Donc on voit que ces débats-là, ils sont toujours assez vivaces et ils sont pas faciles à trancher. La manière simple de le comprendre quand on est français, c'est que c'est comme s'il y avait deux langues différentes pour s'exprimer ici sur un plateau chez Mediapart et quasiment une autre langue pour aller s'exprimer au café à côté. Et donc, en fait, ces deux langues sont complémentaires l'une de l'autre. Elles ne sont pas toujours en concurrence, mais tout le monde ne sait pas les manier aussi bien l'une et l'autre.
Mais ça aurait pu participer à valoriser justement ce bilinguisme dont on parlait chez des enfants, comme on dit, issus de l'immigration maghrébine, qui ne voient pas leur bilinguisme comme un atout.
Oui, même si ça rejoint aussi les questions qu'on abordait tout à l'heure, c'est plutôt aussi une vision de la langue et de la culture arabe qui est aussi minorée. Et donc ça, les enseignants, par exemple, le racontent bien quand ils font un certain nombre de visites. Par exemple, quand ils vont à l'Institut du monde arabe, là, ils ont un certain nombre d'adolescents qui découvrent une partie de l'héritage culturel, historique et linguistique du monde arabe en se disant « Waouh, en fait, il y a autre chose ». Que moi, j'imagine être le Maroc où je vais parfois l'été avec mes parents ou ce que j'entends à la radio ou à la télévision être le monde arabe. Et donc ça, c'est intéressant. Et là, il y a un vrai travail. Il y a une bataille culturelle. Et d'une certaine manière, j'espère que ce livre y contribue pour essayer aussi de... rendre honneur, mais en tout cas, essayer de reconquérir aussi ce patrimoine qui est un patrimoine arabe, mais qui est aussi en grande partie un patrimoine français. C'est-à-dire, c'est aussi notre histoire commune de franco-arabe et de pouvoir assumer pleinement l'idée d'être 100% français et 100% arabe, tout en étant fier de ces deux identités complémentaires.
Avec cet ouvrage, est-ce que vous avez résolu un peu un énième paradoxe, celui de la honte, parce que vous racontez avec beaucoup de sensibilité la honte qui vous étreint de ne pas pouvoir parler en arabe avec votre grand-mère qui ne s'exprime, votre grand-mère libanaise qui ne s'exprime qu'en arabe. Et vous avez en même temps la honte quand votre mère parle arabe en France. Est-ce que vous avez réussi à guérir un peu cette honte de l'enfant d'immigré ?
Alors, en fait, c'est ça. Il y a une forme de double honte. C'est-à-dire, il y a la honte que moi, j'avais enfant et adolescent, qui était plutôt de me dire, en fait, je ne veux pas l'arabe dans ma vie. Je ne veux pas cette part de moi. Je ne veux pas entendre la langue arabe. Je ne veux pas l'apprendre. Je veux que tout ça soit mis à distance de moi. Et donc, j'avais effectivement pas envie d'y être associé. Et puis, plus tard, et notamment dans le monde professionnel, quand je me suis rendu compte que l'arabe pouvait être un atout, je me suis senti honteux de pas pouvoir parler cette langue. Et c'est notamment le cas quand je vais au Liban, quand je monte dans un taxi et que je peux dire la première phrase, mais pas la deuxième, je me dis, mais en fait, qui je suis, quel horrible personnage je suis de ne pas pouvoir avoir une conversation normale et simple, autre chose que de dire, amène-moi ici, uniquement à l'impératif, parce que je suis pas capable de dire autre chose. Et donc, j'ai pas résolu cette honte, j'ai toujours honte de ne pas parler l'arabe, je l'assume plus, mais j'ai aussi compris quelque chose, et ça notamment dans les discussions avec les linguistes, c'est que, au fond, je parle quand même un peu l'arabe. Et même si cet arabe, il est cassé, il est un peu détraqué, il est domestique parce que je sais surtout parler des choses de la maison, en fait, je parle quand même un peu l'arabe. Et qu'il faut arrêter de penser que le plurilinguisme ou le bilinguisme, ça veut dire parler parfaitement toutes les langues.
Oui, vous voulez écrire des articles en arabe, vous avez envie de lire tous ces journaux.
C'est aussi l'idée dans laquelle nous met le système scolaire, qui est de dire, parler une langue, il faut en être là, voilà. Il y a effectivement une idée d'excellence dans toutes les langues. Mais la réalité, c'est que dans les différentes langues que l'on parle, on les maîtrise de manière différente et on les utilise de manière différente. Et peut-être que le sujet pour moi, et je pense pour d'autres enfants d'immigrés aussi, c'est de savoir quelle place on donne à l'arabe dans notre vie, à quoi il nous sert, à quoi on a envie qu'il nous serve, plutôt que de vivre perpétuellement avec l'idée qu'on devrait écrire comme Naguib Mahfouz, qu'on n'arrivera jamais à faire de toute façon.
Non. Abandonnons ce but. Et par rapport à vos parents qui parlaient arabe et cette honte justement parentale, est-ce que finalement c'est pas le lot de tous les enfants d'immigrés, quels qu'ils soient, d'avoir à un moment honte de leurs parents ?
Oui, peut-être. Après, je pense que c'est effectivement très différent suivant l'origine d'immigration de ses parents. Et effectivement, on peut penser que dans les années 50 ou dans les années 30, les enfants d'immigrés polonais, italiens ou espagnols ont pu prendre des distances pour partie avec
la culture de leurs parents. Changer leur nom, par exemple.
Voilà, changer de nom. Et ça, on le voit tout à fait avec des enfants d'immigrés. Il y a des Farid qui deviennent Frédéric, des Amel qui deviennent Armel.
Alors que vous avez fait le contraire. Votre vrai prénom, vous le révélez, c'est Élie. Mais vous avez choisi de prendre votre deuxième prénom qui est Nabil.
Alors, j'ai pas vraiment choisi parce qu'en fait, on m'a toujours appelé Nabil. Mais au Liban, moi, je viens d'une famille chrétienne libanaise. On donne des prénoms de baptême. Et mon prénom de baptême, c'est Élie. Mes parents m'ont toujours appelé Nabil. Mais arrivé en France, je me suis rendu compte devant le système scolaire que c'était assez différent de pouvoir s'appeler Élie ou de s'appeler Nabil. Et du coup, je comprends bien, en fait, aussi la logique des gens qui soit cherchent à changer de prénom, soit pour leurs enfants choisissent des prénoms dont ils se disent ça ne va pas nuire à leur intégration parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de s'appeler Frédéric que de s'appeler Farid dans la vie de tous les jours, mais aussi pour trouver un emploi, pour trouver un logement,
travail,
etc. Parce qu'au fond, dans toute cette histoire, il y a dans la volonté d'intégration que peuvent avoir beaucoup d'enfants d'immigrés, il y a le fait de dire bon, je vais jouer avec les règles. Je comprends comment fonctionne la République, je vais faire à Rome comme les Romains. Et donc, je le fais. Simplement, à un moment donné, ça se fracasse sur le mur de la réalité que sont les discriminations à l'emploi, les discriminations au logement, les discriminations pour rentrer en boîte de nuit. Et en fait, tout ça existe. Et donc, à un moment donné, et c'est la sociologue Kautar Archi qui utilise cette expression que j'aime bien, qui dit « il y a un mensonge originel auquel on a cru ». Moi, j'ai pensé pendant très longtemps qu'en fait, en ne faisant pas comme un arabe, en fait, je ne serais pas perçu comme un arabe. Manque de bol, je m'appelle Nabil, j'ai une barbe, donc ça
oui,
se voit quand même.
Mais ça a bien fonctionné, parce que vous écrivez que l'un de vos collègues, alors que vous prenez une position où vous revendiquez votre arabité, et vous avez un collègue qui vous dit « ah bon, je ne savais pas que tu étais arabe ». Donc finalement, ça a bien fonctionné, et vous l'écrivez même. Vous écrivez « le bon arabe, c'est moi, c'est celui qui n'a pas l'air trop arabe ». Donc voilà, finalement, on a l'impression que vous réalisez aussi que vous avez tellement bien intégré les codes que vous êtes entré dans une forme de déni de vous-même, sans verser dans la psychologie bas étage.
Oui, en tout cas, il y a quand même une forme de prise de conscience chez moi, et je pense que je ne suis pas le seul à être dans cette situation, de dire, en fait, en voulant jouer avec toutes ces règles, en étant le plus français des Français, en
me passionnant pour... les Rougon-Macquart, un été au Liban...
Voilà, et en faisant tout ça, finalement, inconsciemment, il y a l'idée qu'on ne va pas être perçu comme arabe. Et sauf qu'en fait, la réalité, elle nous renvoie toujours à l'inverse. Et particulièrement, c'est vrai ces dernières années, avec la multiplication des attentats terroristes sur le sol français, et notamment depuis les épisodes horribles de Mohamed Merah, de Charlie Hebdo, du Bataclan, et on a encore vu récemment, évidemment qu'à ce moment-là, on se sent très fortement arabe dans le regard des gens. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et donc, à un moment donné, c'est difficile de se dire, en fait, oui, mais je fais tout bien, mais en fait, ça compte pas. Et donc, voilà, c'est pas... une forme de déni, parce que j'ai toujours aimé la culture et la gastronomie libanaise et je ne l'ai jamais renié. Mais c'est vrai que quelque part, dans cette interrogation autour de la langue, il y a aussi cette interrogation-là de dire comment je fais pour être les deux pleinement, de manière transparente et tranquille.
Oui, sans devoir choisir l'un ou l'autre, dire je suis l'un et l'autre et tout va bien se passer. Et donc aujourd'hui, pour finir, vous en êtes où dans votre apprentissage de l'arabe ?
Alors pendant le confinement, je me suis inscrit sur Internet à une appli, mais je n'ai pas énormément avancé. Mais je pense que j'ai surtout compris que ce n'était pas grave si en fait mon arabe n'était pas parfait, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, ça m'a un peu décoincé dans le fait de dire des mots, de dire des bouts de phrases, de parler un tout petit peu l'arabe avec ma fille. Donc j'ai un peu progressé de ce point de vue-là, plutôt du côté déblocage que du côté linguistique. Mais c'est déjà pas mal.
Oui, et vous comprenez que vous n'êtes pas le seul, surtout que nous sommes nombreux, pour le coup, à ressentir les mêmes questionnements et handicaps de ne pas parler assez bien la langue de nos parents. Merci beaucoup Nabil Wakim, on va suivre vos progressions linguistiques avec plaisir.
Merci.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission, on se retrouve bientôt sur Mediapart.